Mais on est conditionné par le milieu que l'on fréquente. Alors, quelle est la règle? Une règle très simple. Je dirais, la volonté du Dieu, elle participe toujours à la nature de Dieu. Alors, il faut connaître ce que Dieu est. Qu'est-ce qu'il est? Il est saint. Il est juste. Il est la vérité. Il est lumière. Il est amour. Il est miséricorde. Il est tout puissant. C'est l'ensemble des perfections divines qu'on appelle la gloire de Dieu. Eh bien, la volonté de Dieu participe à toutes les perfections divines. Donc, si dans ce que je me propose, il y a quelques souillures, quelque chose qui ne correspond pas à la sainteté de Dieu, ce n'est pas sa volonté. Si dans ce que je me propose, il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec sa justice, ce n'est pas sa volonté. Si dans ce que je me propose, il y a du mensonge, et ça me navre de voir qu'il y a des chrétiens qui tolèrent encore le mensonge. Le mensonge, vous signifie, hein, l'exagération et tout ce que vous voulez. Vous pouvez en trouver toute une bande de filles du mensonge. Les réticences, ce manque de transparence. Eh bien non, si dans ce que vous proposez, il y a quelques mensonges, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous avez dépouillé le mensonge pour parler la vérité chacun à son prochain. Si dans ce que vous vous proposez, alors que Dieu est lumière, vous devez faire la chose dans les ténèbres, vous devez cacher la chose. Regardez le pauvre Moïse. Quand il est allé avec sa propre force pour délivrer son peuple, il s'est trouvé devant un conflit d'un Égyptien qui battait un de ses frères hébreux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé tout autour de lui, si personne ne le voyait. Hein. C'est pas ça la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Il en a quand même vu. On croit qu'on ne nous voit pas. Mais tout se sait. Et il a été exilé pendant 40 ans. Vous savez, nos actions, ça pèse. On ne joue pas avec Dieu. Alors, tout ce que nous nous proposons, nous devons faire dans la lumière. L'apôtre Jean dit, ce que nous avons retenu de lui, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a en lui aucune ténèbre. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché et nous avons communion les uns avec les autres. Alors on dit, mais si je suis dans la lumière, pourquoi est-ce qu'il est parlé du sang de Christ qui me purifie du péché? Mais c'est justement parce que quand on marche dans la lumière, tout péché nous est révélé. C'est ça. Si vous marchez dans la lumière, eh bien, beaucoup plus qu'au moment de notre conversion, le péché qui est encore en nous, nous est révélé. Et on peut s'en juger. Mais marcher dans la lumière, si on n'avait pas le sang de Christ, ça nous conduirait à quoi? Au suicide. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, parce que quand on se voit dans la lumière comme Dieu nous voit, on dit j'ai horreur de moi. Mais alors vous avez justement le sang de Christ qui vous purifie de tout péché. Alors on ne se livre pas à l'introspection, mais on dit sonde-moi ô Dieu, psaume 139, connais mon cœur, regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin et conduis-moi dans la voie d'éternité. Alors on est délivré de nous-mêmes. Alors, si dans ce que nous nous proposons, il y a quelque chose qui est en accord avec l'amour de Dieu, cet amour qui est allé jusqu'à nous donner son Fils, si nous ne savons pas nous donner nous-mêmes sans espoir de retour, c'est pas la volonté de Dieu. Et s'il n'y a pas de miséricorde, si c'est contraire à la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire au pardon, parce que vous savez, il faut savoir pardonner, et si vous avez pu pardonner même à ceux qui vous ont offensé, si vous avez cet esprit de pardon dans votre cœur, bien le Seigneur vous exaucera. Ce qui manque justement à beaucoup, c'est qu'ils n'ont pas pardonné. Alors, ils se plaignent de ne pas avoir été exaucés sur certains points. Eh bien, le Seigneur dit, mais tu n'as pas pardonné. Quand tu offres ta prière, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi ou que toi tu as quelque chose contre ton frère, si tu lui pardonnes pas, Père Céleste non plus ne pardonne pas. C'est un obstacle. Alors quand on a bien compris cela, eh bien on a cet esprit de pardon, puis on demande au Seigneur de nous donner cet esprit de pardon. Et en finale, je dirais que la volonté de Dieu, donc elle correspond à la nature de Dieu, elle est en harmonie avec la nature de Dieu, mais elle s'accomplit aussi par la puissance de Dieu. Ce que Dieu ordonne, il le donne. C'est la volonté de Dieu en nous, si nous sommes prêts à l'accomplir, à nous laisser faire par Dieu, c'est lui qui l'accomplit. Et vous avez cela dans Hébreux chapitre 13, versets 20 à 21, mais qui nous dit que c'est lui qui va accomplir sa volonté en nous. Je vous cite le texte pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il dit. Il dit, verset 20, « Que le Dieu de paix, et qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle. Qu'il fasse en vous. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais dit l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors comprenons-le, la volonté de Dieu, on l'accomplit par la puissance de Dieu. Il nous donne sa force. Alors nous ne sommes pas des crevés, mais nous sommes des renouvelés. Oui, nous avons une fatigue physique, nous avons un corps physique, mais enfin, c'est pas ça qui nous arrête. Et ce que nous avons à accomplir, c'est lui qui l'accomplit en nous, et c'est là que j'aime beaucoup rappeler la grande leçon que nous donne Marie, la mère bénie de notre Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça, c'est une leçon. Nous, nous croyons que servir le Seigneur, c'est faire des choses pour lui. Et qu'est-ce que Marie nous apprend? Servir le Seigneur, c'est se laisser faire par lui. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser faire par le Seigneur? En lui disant, bien voilà, je t'appartiens, on le dit qu'on lui appartient, fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne en tes bras. Vous direz, oui, mais c'est le saut dans le vide. Vous avez peur de faire le saut dans le vide? Au-dessous de vous sont les bras éternels. Quand vous ne sentez pas la présence du Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui serait trop haut et que vous n'arrivez pas à atteindre. C'est vous qui êtes monté trop haut. Laissez-vous tomber. Vous ne vous casserez pas bras et jambes. Vous tomberez dans les bras éternels. Au-dessous de vous sont les bras éternels. Et vous connaîtrez la divine étreinte. Sur le cœur du Seigneur, vous aurez le repos. Voilà. J'ai essayé de répondre au moins à une de vos questions. S'il y en a qui sont encore frustrés parce qu'ils avaient d'autres questions, eh bien, je demande au Seigneur qu'il leur réponde lui-même. Pendant la nuit, il en donne autant à ses bien-aimés dans le sommeil. Alors, c'est bien l'heure de m'arrêter, moi, et de vous souhaiter un bon repos. Mais est-ce qu'il y a des questions encore? Brûlante, urgente? Ou bien est-ce que nous pouvons faire confiance au Seigneur? Que lui continuera lui-même la réunion. Quand Élie s'est tu, l'Éternel a commencé de parler du sein du tourbillon. Alors, nous vous allons faire confiance au Seigneur, nous fermons notre bouche, et puis nous lui disons, parle, tes serviteurs et tes servantes, écoute. Dieu notre Père, nous te remercions à la fin de cette semaine, de ce samedi, de nous avoir permis de prendre ce bain dans la parole de Dieu. Parce que nous réalisons vraiment que ta parole nous lave. C'est le bain de la parole de Dieu. Cette parole nous purifie dans nos pensées, dans nos actions, dans tout notre être. Nous voulons te bénir parce qu'elle ne nous tue pas, cette parole, elle nous fait vivre. Elle nous restaure. Oh, que tu es bon, Seigneur. Nous voudrions vraiment te louer. Et nous te demandons que la journée de demain soit une journée de louange. Que nous puissions entrer dans cette journée, dans ce premier jour de la semaine qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur, dans un esprit de louange et vraiment d'adoration. Et que nous puissions nous souvenir de toi, dans ta mort, qui nous a donné la vie. Car tu ne nous as pas seulement enseigné des choses, tu nous as donné ta propre vie pour qu'elle devienne la nôtre. Que tu continues de parler à nos cœurs, que nous puissions avoir vraiment ce tête-à-tête avec toi. Que nous ne te laissions pas derrière la porte, mais si tu frappes sur un pont ou sur un autre, que nous puissions te dire « Entre, Seigneur. » Puisque tu dis « Je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Que ce soir, les uns et les autres, dans nos chambres, dans notre solitude, nous ayons fait tête à tête avec toi. Pour ta seule gloire. Que demain, nous puissions nous revoir, si tu le veux, en ayant d'abord contemplé ta face. Et en pouvant voir le visage de nos frères, comme on voit la face de Dieu. Comme Jacob le disait à Ésaü, son ennemi, j'ai vu ton visage, comme on regarde la face de Dieu. Que ta grâce nous soit donnée, que ta bénédiction repose sur chacune de nos familles, sur tous les membres que nous représentons ici, et que tu accompagnes ceux qui nous quittent, qui doivent voyager, que tu les préserves sur le chemin. Et que ta journée, demain, si nous la voyons, soit la journée du Seigneur, la journée que l'Éternel a faite, où tu mettras ton sceau sur ces enseignements d'un caractère d'un homme de Dieu, pour la gloire du Père au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.
Bien, mes amis, je veux croire que vous éprouvez tous ce matin qu'ensemble nous sommes réunis autour de celui que Dieu le Père a appelé son Fils bien-aimé. C'est ma joie d'être avec vous pour entourer ce bien-aimé. Et je veux croire aussi plus profond de mon cœur que vous éprouvez les uns et les autres que vous êtes aussi nos bien-aimés. On ne peut pas se rencontrer autour du Seigneur, entendre sa parole, voir le Seigneur et ne pas commencer à s'aimer les uns les autres, même si on ne se connaissait pas avant, même si on ne s'était jamais vu. Il n'y a pas besoin de vivre des années ensemble pour s'aimer. Une heure avec le Seigneur, ça scelle nos cœurs. Et je dirais même quelques minutes, quelquefois, avec les personnes tout à coup. On éprouve vraiment que c'est comme si on s'était toujours connu. C'est vrai. Parce qu'on sent que l'objet de l'affection des cœurs, c'est Jésus. Et alors quand on parle de Jésus, quand on pense à Jésus, on ne s'occupe pas de l'étiquette religieuse que l'on a. C'est pas à cela qui me lie. Mon cher père disait souvent, en tout cas moi je ne serai pas un porte-barrière pour aller au ciel. Toutes ces barrières qu'on a mises entre les croyants, ça n'existera pas là-haut. Alors on ne va pas prendre nos barrières là-haut. Les hommes nous mettent des barrières entre nous. Bien, là-haut, c'est fini. On sera tous à ses pieds. Et on pourra s'aimer les uns les autres. D'un amour sans mélange. Alors, n'attendons pas d'être au ciel pour s'aimer. Hein. Aimons-nous déjà sur la terre. Dans ce monde où il fait si froid, dans ce monde où il y a tant de haine, aimons-nous de ce véritable amour. Et Jésus nous a dit que c'est à cela que tous, hein, c'est formidable cette parole, que tous connaîtront que nous sommes ses disciples. Si nous avons de l'amour entre nous. C'est merveilleux d'avoir Karl et Mathieu. Nous demandons au Seigneur que cette heure soit bénie pour chacun de nous. Nous sommes donc arrivés en ce dimanche 18 octobre à notre dernière réunion, notre dernier exposé sur ce thème, les caractères d'un homme de Dieu. Et hier soir, en vous parlant de l'homme de Dieu venu de Juda à Bethel et du vieux prophète qui s'y trouvait et qui fut un piège pour cet homme de Dieu, nous avons cherché à vous montrer combien nous avions besoin de discernement spirituel pour connaître la volonté de Dieu. Et cette volonté, qui nous paraît si souvent difficile à connaître, nous avons vu que le croyant était, dès sa conversion au Seigneur, spécialement choisi pour la connaître. Et je vous ai cité le message d'Ananias, qui fut le premier message que Dieu communiqua à Saul de Tarse par son serviteur Ananias, ce message qui dit « Le Dieu de nos pères t'a choisi pour connaître sa volonté. » Or, c'est un bébé en Christ, ce Saul de Tarse. Hein. Il vient de naître à la vie nouvelle. Il vient de rencontrer le Seigneur et il apprend de suite que ce qui s'est passé sur le chemin de Damas, où il a eu la révélation que le Christ était vraiment ressuscité et que les disciples n'étaient pas des imposteurs, eh bien, il apprend immédiatement que ce Christ qu'il a vu glorifié, réellement dans la gloire, modèle de ce que nous serons un jour quand nous serons là-haut, eh bien, maintenant, il apprend que tu es choisi pour connaître cette volonté. Et tu vivras sur la terre en connaissant la volonté de celui qui est en haut. Donc, toutes ces directions, il va les recevoir d'en haut. Ces pensées qui le conduiront dans la vie pratique, ce sont non pas
ses impulsions charnelles, mais ce seront des pensées qui lui viennent d'en haut. Sa tête, son chef, est dans le ciel. Et ce ne sont pas les hommes, pas même les grands apôtres de Jérusalem, qui vont l'influencer et lui dire ce qu'il a à faire. Parce que vous savez, les comités, ils peuvent prendre toute espèce de décision pour vous, même les comités religieux, et souvent, ce n'est pas les décisions du Seigneur, et c'est ça qui est très grave. Il faut que vous soyez dirigés personnellement par la tête. Et quand vous reprenez l'image du corps de Christ, eh bien, ce n'est pas ma main droite qui commande à ma main gauche. Qu'est-ce qui commande à ma main gauche? C'est ma tête, n'est-ce pas? C'est la tête qui commande à tous les membres. Il n'y a pas un membre qui dirige sur les autres. Et nous avons tous besoin les uns des autres. Et c'est ça qui est merveilleux, de découvrir ce corps de Christ. L'unité de ce corps. Qu'il n'y a pas un membre qui est inutile. Et que même si un membre souffre, tous les autres souffrent. Et que si un membre est glorifié, tous les autres se réjouissent. Et c'est ça qui devrait faire notre joie dans les églises. Quelqu'un est béni, eh bien, au lieu d'être jaloux, qu'est-ce que nous devrions être? Heureux, ça nous touche, parce que nous faisons partie du même corps. Et nous sommes encouragés par les bénédictions que les autres reçoivent. Nous ne crevons pas d'envie. Au contraire, on est heureux. Vous êtes heureux, je suis heureux. Mais si je suis souffrant, je sais que vous souffrez aussi, parce que vous m'aimez. C'est cela les relations que nous avons dans le corps de Christ. C'est un club. Et moi, je suis effrayé de voir combien souvent nos communautés deviennent des petits clubs. Et en dehors du club, eh bien, il n'y a pas de sympathie pour les autres. Alors, faisons attention que nos communautés ne soient pas un club. Nous sommes les membres du corps de Christ. Je ne suis membre que du corps de Christ. On peut se réunir dans telle ou telle communauté parce que cela est nécessaire pour notre édification, mais quant à être membre de quelque chose, on est membre du corps de Christ. Et alors, avec cela, on se trouve en communion avec tous ceux avec lesquels le Seigneur est en communion. Je ne puis pas prétendre, moi, être en communion avec le Seigneur et dire, je peux pas être en communion avec les autres. Hein? Ils sont avec le Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas qu'en communion avec moi. Il y a d'autres personnes avec lesquelles le Seigneur se trouve en communion. Et vous savez, on peut être un homme de Dieu et tomber dans ce piège. J'ai parlé d'Élie, homme de Dieu. Mais il s'est cru tout seul à un moment donné. Hein? C'est vrai ou c'est faux? C'est pas du tout dire sur Élie. Mais quand il était découragé, il disait à Dieu, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Et Dieu lui dit, mon petit, tu ne sais pas qu'il y en a 7000 en Israël qui n'ont jamais ployé les genoux devant Baal et qui n'ont pas baisé. Il ne les connaissait pas. Hein? Puis il était un homme de Dieu. Mais il connaissait pas ces gens-là. Et Dieu lui révèle, mais il y en a 7000 et qui sont encore avec moi. Toi, tu ne les connais pas. Un homme de Dieu. Vous voyez comme nous avons tous besoin d'être enseignés, de nous laisser réenseigner par la parole, de relire cette la parole, d'en faire une relecture vivante et qu'elle nous pénètre. Oui, nous sommes choisis pour connaître la volonté de Dieu. C'est le message que Saul de Tarse a reçu dès sa conversion. Et voir le juste. Ne regardez pas à vos frères, à des autres chrétiens. Regardez-les pour les aimer, pour les aider. Mais ne soyez pas découragés parce que
si vous voyez que leur marche n'est pas toujours ce que Dieu voudrait, et ne prenez pas exemple sur eux, mais tâchez d'être un exemple pour eux. C'est ça qui compte, hein. Ne recherchez pas des modèles chez les autres. Devenez vous-même des modèles. En regardant le modèle, qui est l'homme de Dieu par excellence, dont le nom est merveilleux. L'homme de Dieu par excellence, nous l'avons vu dans les Juifs. Il s'appelle merveilleux. Alors, vous ne serez pas découragés. Et puis, en le contemplant, qu'est-ce qui se passera? Vous serez transformé à son image. C'est pas à vous qui vous transformerez. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. En le contemplant à face découverte, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. C'est pas notre effort charnel. Nous n'essayons pas de ressembler à Jésus. Mais en contemplant Jésus, le monde voit qu'on commence à lui ressembler. Mais c'est pas un effort charnel. C'est une vie personnelle, actuelle, quotidienne, avec le Seigneur. Et apprenez à faire entrer le Seigneur dans les petits détails de la journée. Parce que si vous ne faites entrer le Seigneur que dans les grands événements de votre vie, il n'est pas souvent là. Parce qu'on n'a pas tellement de grands événements dans notre vie. C'est vrai ou c'est faux? C'est dans le détail de notre vie quotidienne. Et c'est ça qui empoisonne notre existence. C'est le détail de notre vie quotidienne. Alors, cuisinière, femme de ménage, quand vous êtes à la maison, eh bien, faites entrer le Seigneur. Quand vous tenez l'aspirateur et le balai, tout ce que vous voulez, ou que vous êtes en train de peler les pommes de terre, dites-vous, le Seigneur sera à ma table d'aujourd'hui. Alors, ça vous aide. J'ai vu vraiment des personnes qui étaient servantes, qui râlaient contre leur maîtresse, et quand elles ont compris cela, que j'avais pu leur enseigner, ça a changé complètement leur relation. Complètement relation entre patron et ouvrier, entre maîtresse et servante. Quand chacun peut faire les choses, non plus pour l'homme, pour le patron, pour la maîtresse, mais pour le Seigneur. Alors il y a de la bénédiction. Et la volonté de Dieu, elle veut nous être révélée justement dans le quotidien, dans le détail de nos journées. Et ce que je voudrais souligner dans cette dernière rencontre, c'est que les Écritures, étant l'expression permanente des pensées et de la volonté de Dieu, nous allons donc relire une dernière fois ce matin les textes qui ont servi de toile de fond à nos messages sur le caractère d'un homme de Dieu. Mon frère les a déjà lus, mais les relire, ce ne sera pas de trop. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, justement dans cette volonté de Dieu, pour convaincre, pour nous donner des convictions, pour qu'on ne soit pas hésitant quand on doit faire quelque chose. On est convaincu, parce que celui qui agit sans conviction, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction, il pêche. Quand j'ai pas de conviction, je ne prends pas de décision. Vous direz, mais il faut la prendre la décision. Oui, mais le Seigneur est toujours à l'heure. Il me donne la conviction. Quand l'heure est venue, mais des fois, moi, je serai avant l'heure. Mais vous pouvez être sûr que si vous dépendez du Seigneur, vous serez à l'heure. Le Seigneur, lui, sera à l'heure. Et ne sera jamais en retard. Mais pour nous, c'est des fois le dernier quart d'heure qui est le plus difficile à vivre. Mais vous pouvez être tranquille que si vous vous attendez à lui, et que vous ne prenez pas vous-même la décision, mais que vous attendez que le Seigneur vous donne la conviction, eh bien, il le fera. Alors, nous sommes convaincus et puis corrigés, parce que n'est-ce pas l'homme propose, mais Dieu
dispose. Alors, quand je me propose quelque chose, je me propose des choses à la lumière de la parole, mais peut-être que j'ai pas compris toute la parole, peut-être que je peux faire une erreur. Il y a telle voie qui semble droite à un homme, et pourtant, un sentier de mort en est la fin, une issue de mort en est la fin. Alors, je dois, même quand je pense que je me conduis par la parole, je dois toujours veiller, je me dis, Seigneur, autant que j'ai compris par la parole, je me propose ceci. Mais si après, dans le quotidien, ça se passe autrement que je l'avais prévu, au lieu de me heurter contre la volonté de Dieu comme ça, parce que ça se passe pas comme je l'avais prévu, je dis, mais c'est merveilleux, Seigneur. Moi, j'avais prévu ça comme ça, mais toi, tu disposes autrement. Alors, tout de suite, on se met d'accord avec lui. Et le combat cesse. On n'est plus contre, mais on est d'accord. Puis on dit, Seigneur, merci, parce que tu as mieux vu que moi. Moi, je croyais avec mes yeux de chrétien que je voyais bien, mais j'étais encore myope. Et puis, je voyais pas loin, tandis que toi, tu voyais un peu plus loin que moi. Et au lieu d'être déçu, d'être contrarié, parce que ce que le Seigneur m'a appris à moi, personnellement, c'est que mes contrariétés n'étaient qu'une manifestation de ma volonté propre. Hein. De ma volonté propre qui ne s'accomplissait pas. Tandis que, si vous dites, si Dieu le veut, voilà comment je comprends les choses. Mais si toi tu as une autre pensée, d'accord, c'est un patron. N'est-ce pas? Nous sommes attelés à une tâche, mais si je suis un ouvrier, puis que le patron a un autre travail à me donner, parce que c'est urgent et que c'est immédiat, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pas râler contre le patron, je dis, mais laissez-moi finir. Il dit, non, il y a quelque chose de plus important. Alors je me soumets. Philippe, par exemple, vous pouvez prendre tous ces exemples dans l'Écriture, et ils viennent comme ça à mon esprit. Il avait un travail formidable en Samarie, ça réussissait bien, il y avait des gens qui se convertissaient. Puis Dieu lui dit, alors qu'il semble indispensable pour les Samaritains, va sur le chemin de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. Mais les voix de Dieu, les pensées de Dieu, je peux pas, Seigneur, je suis pris, j'ai des tâches, j'ai des responsabilités, j'ai commencé une œuvre. Et Dieu dit, c'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Ce n'est pas indispensable. Mais là, il y a un Éthiopien qui s'en va tout seul en Éthiopie, qui est déçu parce qu'il n'a pas trouvé la vérité à Jérusalem, mais il a un rouleau du prophète Ésaïe, et il ne le comprend pas. Va sur ce chemin désert. Puis là, il rencontre l'Éthiopien, et c'est la conversion de l'Éthiopien qui sera le premier évangéliste des Noirs. Pour apporter l'évangile là-bas. Vous voyez, comme il faut être souple dans la main du Seigneur, et puis pas se croire attaché absolument à une tâche. Nous nous vissons nous-mêmes à un endroit ou à quelque chose, alors que Dieu voudrait qu'on soit libre comme l'air. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le son, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Puis la suite, ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, la question pour nous, c'est pas de posséder le vent et de contrôler le vent, c'est d'être dans le vent. Et de nous laisser emporter par le vent. Le Seigneur est libre. Il fait de nous ce qu'il veut. Alors, vous voyez, ça vous rassure. Parce que maintenant, vous dites, qui dit une chose, elle arrive si Dieu ne l'a pas commandée. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Alors, on est en paix. Rien n'arrive sans ta permission, sans ta volonté, et je me soumets. Vous voyez, cela nous corrige, vous voyez, cette parole, ça nous instruit dans la justice pratique, et puis, tout cela, c'est pour que nous devenions accomplis, c'est-à-dire équipés et propres à toute bonne œuvre. Parce que Dieu voudrait justement former ces gens qui sont sauvés par la foi. Il veut qu'ils soient sauvés pour les bonnes œuvres. Il faut que les bonnes œuvres soient accomplies pour que le monde croit Il faut qu'il voit des œuvres. Pour Dieu, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, c'est la foi. Mais pour que le monde croie, il faut qu'il voit les œuvres des croyants. Parce qu'une foi sans œuvres, elle est morte. Et Jésus a dit, il faut que le monde voie vos bonnes œuvres, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils croient. Les gens du monde, pour croire, il faut qu'ils voient. Et ce qu'ils veulent voir, c'est vraiment cette vie dont nous parlons. Cette vie doit être manifestée en nous. Alors, je lis encore les versets précédents, versets 14 et 15, qui sont adressés à Timothée dans ce chapitre 3. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et qu'est-ce que sont ces saintes lettres que Timothée avait connues dès son enfance? C'était quoi? L'Ancien Testament. Parce que au temps de Timothée, il n'y avait pas encore écrit les évangiles et les épîtres. Donc, les saintes lettres qu'il avait connues dès son enfance par sa mère Eunice et par sa grand-mère Loïs, c'était l'Ancien Testament. Et je voudrais vous donner cet amour pour l'Ancien Testament. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Mais aussi, non pas seulement l'Ancien Testament et la loi, les psaumes et les prophètes, mais aussi ce qu'il avait appris depuis qu'il avait rencontré Paul, ce qu'il avait appris de Paul, qui avait reçu la mission, comme il le dit, de compléter la parole de Dieu. Je souligne encore cela pour vous montrer que le Nouveau Testament est aussi, fait partie aussi des Écritures maintenant, et Paul le dit clairement dans Colossiens chapitre 1, où il dit, verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin de... » Darby et les versions plus littérales disent de compléter la parole de Dieu. Et non simplement, comme l'a écrit Second, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Ça dit pas tout, annoncer pleinement la parole de Dieu. Mais afin de compléter la parole de Dieu. Il y avait encore des choses que Dieu voulait révéler à l'Église qui naissait de la mort et de la résurrection de Jésus, et Paul a été choisi pour compléter la parole de Dieu, pour que nous ayons maintenant pleinement toute la parole de Dieu. Et il dit, cette parole de Dieu, c'est le mystère caché dans tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, parce que Paul a eu la lumière de tout ce qui était caché dans l'Ancien Testament et il a révélé avec les autres apôtres, avec qui avaient été à l'école de Jésus, tout ce qui dans les Écritures nous parlait de Jésus. Et à ces hommes, à ces saints hommes, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, parce que Dieu ne voulait pas sauver seulement les Juifs, il voulait sauver aussi les païens. Christ en vous, espérance de la gloire. Voilà ce mystère. c'est que Christ n'est pas au fond du ciel maintenant seulement, mais il est en nous et il est l'espérance de quoi ? De la gloire. Nous avons reçu la grâce et qu'est-ce que nous attendons ? La gloire. Mais nous avons cette espérance. Et verset 28, vous voyez le travail de Paul, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, vous voyez, c'est pas de l'élitisme, c'est pas certains hommes des initiés, mais exhortant tout homme, ça veut dire aussi toute femme, bien sûr, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est en cela qu'il complétait, qu'il apporter ce qui manque aux souffrances du Christ. Il l'achevait dans sa chair, les souffrances du Christ, quant à ses souffrances expiatoires, il n'y avait rien à ajouter, mais quand Paul souffrait pour que les âmes arrivent à être conformes au Christ, eh bien, il souffrait pour le corps de Christ. Parce que car les Lévites abandonnèrent leur banlieue et leur propriété, donc en Israël, et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils les empêchaient de remplir leur fonction comme sacrificateurs de l'Éternel. Comprenez-vous ? Pourquoi? Parce que Roboam avait créé ses sacrificateurs. Il avait créé ses prêtres. Alors, il ne voulait pas que les prêtres de la tribu de Lévi fonctionnent. Ça n'allait pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on est droit, si on a des convictions, on quitte son pays. Je ne vous parle pas gratuitement. J'ai dû quitter mon pays, moi. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait une division. Quand ce que je vous ai raconté m'est arrivé. Il faut peut-être quitter son pays, il faut quitter sa ville, il faut s'exiler, parce qu'on ne veut pas être une occasion de scandale. Eh bien, ils quittèrent leur pays. Verset 15, Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs, pour les veaux, qu'il avait fait, ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites. Donc, les Lévites ont été un bon exemple, et ceux qui avaient à cœur de suivre l'Éternel, ils ont suivi l'exemple des Lévites à Jérusalem. Il souffrait vraiment pour le corps de Christ, parce que les membres du corps doivent devenir semblables à la tête. Il doit y avoir conformité entre les membres et la tête. Alors, le Christ a tout souffert pour expier nos fautes, mais dans la mesure où nous entrons dans les souffrances du Christ, que nous ne souffrons plus comme voleurs, comme meurtriers, comme des gens qui font le mal, mais que nos souffrances viennent de notre position pour le Christ, et pour les âmes, ce sont des souffrances pour le corps du Christ. Nous sommes identifiés au Christ. Alors ce sont des souffrances sacrées. C'est pour ça que je vous dis, mes amis, les souffrances, c'est dans le programme du chrétien. N'excluez pas les souffrances de votre programme. Elles sont au programme, vous êtes averti que si vous êtes chrétien, vous aurez des souffrances. Mais ce seront des souffrances sacrées, des souffrances saintes. Et alors ça vaut la peine, parce qu'elles ont une valeur, puisque le Christ, en tant qu'homme et homme de Dieu, est parvenu à la perfection par les souffrances. Est-ce que nous pouvons prétendre suivre ce chemin-là sans souffrir? Passer en carrosse là où il a été pieds nus. Non. Nous allons marcher à sa suite. C'était ça la vision de l'apôtre. Vous voyez, pas vers une élite qui est quelques personnes qui dominent dans une assemblée, mais que tous et les plus petits puissent grandir. C'est à quoi je travaille en combattant avec mes forces. Voilà les serviteurs déprimés finalement. Quand on combat avec ses forces, on finit par être déprimé, fatigué. Non. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Oh, que ce ne soit plus seulement des textes bibliques, mais que ça devienne dans chacune de nos vies des réalités. Et alors, nous continuons. J'arrive maintenant à ce dernier passage qui était à la base de nos études, où Paul appelle Timothée un homme de Dieu. C'est au chapitre 6 de ces premières épîtres. Vous pourrez retrouver tout cela parce que j'ai plus confiance à ce qui va se passer après la retraite qu'à ce qui peut se passer maintenant. Si vraiment vous êtes sérieux, vous allez relire ces textes, vous allez même lire toutes les épîtres à Timothée, les deux épîtres, et vous laisser imprégner par elle. Alors, ce dernier passage, c'est dans le chapitre 6, le verset 11, mais je le lis aujourd'hui dans son contexte. Alors, nous commençons au verset 3. du chapitre 6. Alors écoutez bien, il y a des dangers dans ce monde, pour les jeunes comme pour les plus âgés. Et nous sommes mis en face de ces dangers. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, il ne s'attache et ne s'attache pas aux saintes paroles que de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est les évangiles, et à la doctrine qui est selon la piété, c'est-à-dire selon une relation vraie avec le Seigneur, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, c'est souvent ce qui arrive avec le chef des sectes, il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. C'est pour ça que je refuse certaines discussions. Elles sont pas pour moi. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Et vous savez, il y en a beaucoup qui pensent que la piété est une source de gain. Alors faisons attention. Il y a des hommes qui se prétendent des hommes de Dieu et qui veulent surtout gagner de l'argent, avoir de l'argent. C'est l'argent qui compte. Alors que, on sait très bien, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. Mais quand on pense que on se dit serviteur de Dieu et qu'on ne parle que d'argent, dans les circulaires ou ailleurs, et alors maintenant par la radio, par la télévision, vous avez des appels à n'en plus finir, c'est soi-disant pour soutenir l'œuvre de Dieu, comme aussi dans les hôpitaux, on vous demandait de l'argent pour les hôpitaux, puis vous apprenez qui est-ce qui se servait de cet argent. Hein? On s'en servait pour augmenter le salaire des directeurs. Mais c'est un scandale. Alors, attention, attention. Une source de gain, faire de la piété, une source de gain. Tiens, je ne trouve pas de job de ce côté-là. Pourquoi est-ce que je ne deviendrai pas évangéliste ou je ne sais trop quoi? Hein? Mais ça, j'ai entendu en Suisse. Alors, il paraît que on peut avoir du travail au Québec pour servir le Seigneur. Ça me fait grincer des dents. Hein? Parce que oui, en Suisse, en France, c'est très difficile. Mais alors on dit, il y a le réveil au Québec, et on nous dit qu'on fonde des églises tant par semaine. Hein. Alors donc il faut des gens. Alors mon job, il est tout trouvé. Puis ils oublient qu'il y a l'immigration aussi, qui va peut-être mettre un obstacle. Mais enfin, on pense, on a des amis chrétiens qui vont prier. Puis nous sommes les hommes préparés, les hommes indispensables. C'est pas des appels, ça. Alors, on veut gagner sa vie en annonçant l'évangile. Moi, je suis bien heureux qu'il y ait le bien-être social pour certains. Mais quand j'entends quelqu'un qui est jeune et qui pourrait travailler, qui dit, vous savez, moi, c'est formidable, hein, grâce au bien-être social, je peux annoncer l'évangile. J'ai envie de lui envoyer mon pied quelque part. C'est pas chrétien, ça. Alors, je dois peut-être m'en humilier. Mais c'est quand même terrible. Alors, comment voulez-vous que le gars qui entend cela croit à cet évangile? Alors, il dit, c'est moi qui te paye pour que tu annonces l'évangile, moi qui n'y crois pas. Hein? Vous rendez-vous compte de notre stupidité? Et des obstacles que nous mettons à l'évangile. Nous mettons des pierres devant les âmes. Des occasions de chute. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété, c'est vrai. Quand on est vraiment pieux, c'est-à-dire qu'on cultive, qu'est-ce que c'est la piété? C'est cultiver une relation avec Dieu. C'est croire que Dieu est vivant et qu'il n'est pas au fond du ciel, mais qu'il est en nous et qu'il veut nous conduire. Et alors, on a sa crainte dans nos cœurs et cette confiance. Alors, la piété est avec le contentement, mais il faut le contentement, c'est une source de grande bénédiction, une source de gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, Mathieu, quand tu es né, est-ce que tu avais une petite chemise? Tu es sorti avec une chemise du sein maternel? Tu le sais très bien, on te l'a dit. Comment est-ce qu'on est? Nous. Nous, je suis sorti du sein de ma mère. Alors, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Bon, on peut nous mettre le plus bel habit dans le cercueil. Qu'est-ce qui va y arriver à cet habit? Qui arrive à tout le corps. Alors, nous savons que nous ne pourrons rien emporter. Alors, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Et c'est cela que nous devrions avoir, cette sagesse qui est déjà décrite dans l'Ecclésiaste. Ne me donne ni pauvreté dans les Proverbes, ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire. Parce qu'il y a des dangers quand on court après l'argent. Verset 9. Si on a le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, voyez, tombent dans la tentation, dans les pièges, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et c'est vrai. On pourrait vous raconter bien des cas. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul avec toute son expérience, mais il y a l'expérience de toute l'histoire du monde. Et quelques-uns, en étant possédés, ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ah voilà, est-ce que je vais perdre ce que j'ai mis à la banque? Est-ce que on est toujours avec la bourse, avec les fluctuations de la bourse? On n'a plus la paix, on dort mal, etc. Et puis tout à coup, on apprend qu'on a tout perdu. Parce qu'il y a eu une dévaluation de la monnaie ou que sais-je encore. Pour toi. Alors, vous voyez maintenant, verset 11, pourquoi il faut lire les choses dans le contexte? Si je sors seulement le verset, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Maintenant, vous connaissez ce qu'il faut fuir. Hein? Alors, on les a lues, fuis ces choses. Donc, cet amour de l'argent, fuis ces choses. Et alors, qu'est-ce que je dois rechercher? Donc, j'ai des choses à fuir. Mais j'ai des choses aussi à rechercher. Mais vous savez, moi j'ai toujours fait cette expérience que quand je prêche sur un certain sujet et que j'y vais à fond, Dieu m'oblige à vivre ce que j'ai dit. 1953, c'était en Tunisie, où un ami que mon ami Flao connaît, Victor Smadja, qui est à Jérusalem maintenant, m'avait fait venir. Et puis, toutes les églises de Tunis, c'était avant, c'était encore français, toutes les églises de Tunis s'étaient mises ensemble pour que j'aie ces conférences dans une grande salle, le Palais des Sociétés Françaises, à Tunis. Alors, il y avait des musulmans, il y avait des arabes, il y avait tout ce que vous voulez, mais il y avait aussi les chrétiens par là. Et la première conférence que j'ai faite, c'était d'abord à l'église anglicane, parce que le soir, c'était dans la grande salle, mais le matin, c'était à l'église anglicane. Et en partant de Nice, j'avais reçu un manteau neuf. Et un manteau qui était magnifique. Mes filles m'avaient dit, papa, rien ne va bien. C'était un manteau léger. Il était chaud, mais vous savez, ce genre de tissu léger. Et moi qui n'aime pas les manteaux lourds, qui me sont écrasés, j'étais heureux, il était chaud et il était léger. Parce qu'en février, là-bas, en Tunisie, il pouvait faire froid. Et j'étais parti, il paraît que j'étais bien, d'après-midi. Et j'arrive là-bas, et on me dit, eh bien, vous savez, il y a beaucoup de voleurs ici, alors on va pas mettre le manteau à la sacristie, ça vaut mieux, disent les missionnaires, qu'on mette dans notre chambre. Alors, ils ont pris mon manteau, ils l'ont mis dans leur chambre. Et moi, j'ai prêché justement sur ce texte-là. Nous n'avons rien apporté, puis nous n'emporterons rien. Et je donnais cet exemple. Quand vous recevez quelque chose, qu'est-ce que vous dites? Merci. Hein? Alors, tu as besoin car de mon crayon, je te prête hein, mon stylo. Tu me dis merci. Mais ensuite, tu vas me le rendre. Qu'est-ce que tu me dis en le rendant? Je dis merci aussi. Hein. Alors, je montre qu'au fond, vis-à-vis de Dieu, nous devrions être la même chose. Il nous a tout donné, puis quand il nous reprend, on devrait lui dire merci, comme Job l'a compris. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Et puis, on n'a pas compris cela. Alors, j'avais dit cela. Donc, vous voyez, c'était très simple, c'était très clair. Et puis quand j'ai eu fini, on a terminé le culte, alors je devais aller dîner ailleurs, je suis allé pour prendre mon manteau. Un arabe était entré dans la chambre de ses femmes, des missionnaires, et était parti avec le manteau. Alors, qu'est-ce que je vais vivre moi maintenant? Alors les missionnaires, en fait, tout ce monde, catastrophe, mais je reviens, on va faire une collecte spéciale pour que vous puissiez vous acheter un manteau. Oh, rien à faire. Je viens de dire que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Eh bien, je l'avais reçu, il m'a été repris, que son nom soit... disons, on va appeler la police. Vous n'allez pas ameuter la police contre les Arabes, puis rechercher un manteau, il sera vendu dans les souks de Tunis. Alors, oui, mais vous savez qu'il fait froid, vous êtes là pour 3 mois en Afrique du Nord, et ils vous font... J'ai dit, non, je n'en veux pas. Le Seigneur me l'a enlevé, la température, il fera ce qu'il voudra, mais je ne veux pas qu'on me paye un manteau, pas un cent. Et puis voilà. Mais quelques jours après, le pasteur de l'église réformée de Tunis me dit, mais voici, il me paraît qu'on vous a volé votre manteau là. Il dit, vous savez, je suis très embêté, je viens de recevoir un télégramme de Hollande où on me dit n'envoyez plus de par-dessus pour la catastrophe qui vient de se passer. Il y avait eu le raz-de-marée en Hollande, puis on avait demandé des vêtements pour tout. Il dit, j'ai un tas de manteaux dans la sacristie de mon église. Peut-être que vous en trouverez un, ils sont pas neufs, mais vous en trouverez un. Bon, j'en ai pris un qui coûtait rien à personne. Il est un peu lourd, oui. Mais ça ne fait rien. Il faut vivre ce que l'on dit. Le Seigneur nous prend au mot, tu l'as dit, est-ce que tu vas le vivre? C'est cela, la pratique de la parole. Hein? Il faut être prêt à vivre ce qu'on enseigne. Et puis le Seigneur prend soin de nous d'une façon admirable. Alors, voilà, j'en ai dit assez. Maintenant, pour... qu'est-ce qu'il faut rechercher? Qu'est-ce qu'il faut... poursuivre maintenant. Il y a des choses qu'il faut fuir, donc l'amour de l'argent. Le Seigneur prend soin de nous. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous avez des hommes qui se disent de Dieu, qui cherchent de l'argent, et puis qui vous disent aussi que quand on est vraiment chrétien, on est riche. Parce que Abraham était riche, et puis on nous cite tous les hommes riches de la Bible, et soi-disant, la preuve qu'on est avec Dieu, c'est qu'on a des biens. Parce que Dieu est riche, c'est vrai qu'il est riche, mais il ne nous donne pas plus qu'il ne faut. Et puis même s'il nous donne des richesses, c'est pour qu'on en soit les administrateurs, mais pas pour que nous devenions capitalistes. Parce qu'encore quand on croit à l'enlèvement de l'Église, et puis qu'on accumule simplement des trésors, c'est pour qui? Pour l'Antichrist. Ça va profiter à l'Antichrist, à celui qui viendra après. Alors, ce serait quand même terrible que nous, les chrétiens, nous devenions les capitalistes de l'Antichrist. Oh, mais nous partirons, mais vous ne partirez pas avec vos coffres. Vous ne les emporterez pas, vos coffres. Si réellement ça a une autorité sur nos cœurs, à Alors, travaillons avec ce que nous avons, faisons notre besogne avec les biens que Dieu nous donne sur la terre, cherchons à aider les uns les autres. Alors, poursuivez. Ce que nous devons poursuivre, ces caractères d'un homme de Dieu, je les cite et en insiste, la justice. Cette justice pratique qui renie le péché et qui lui défend de s'introduire dans nos voies. Nous voulons être justes vis-à-vis de notre prochain et puis vivre selon le Seigneur. La piété qui se trouve être nos rapports d'intimité avec Dieu qui sont basés sur la crainte et la confiance, rapports qui sont impossibles sans la justice. Quand je vis dans la justice rendant à mon prochain ce qu'il lui revient, eh bien, je peux vivre dans la piété, c'est-à-dire en vraie relation avec Dieu. Mais je ne peux pas être en vraie relation avec Dieu si je fais du mal à mon prochain, si je ne suis pas juste vis-à-vis de mon prochain. Et puis, il y a maintenant la foi. La foi, c'est cette puissance spirituelle par laquelle on tient pour vraie toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu et par laquelle eh bien, on saisit les choses invisibles. Quand j'ai devant moi des choses visibles qui sont faites pour me décourager, ma foi passe par-dessus, c'est les ailes de la foi, oui. Ma foi s'élève au-dessus et saisit les choses invisibles. C'est cela la foi. Quand vous croyez les promesses de Dieu, il y a des choses visibles qui vous attristent, qui vous brisent peut-être, mais au lieu de vous laisser attrister par les choses visibles, vous regardez aux invisibles qui sont éternels. Et alors, il dit, c'est en vain que le filet est étendu devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Proverbe 1, verset 17. Hein. C'est en vain que le filet est étendu devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Le filet est là. Hein. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez les ailes de la foi, vous passez par-dessus. Et vous échappez au filet de l'oiseau. Alors, joignez justement, recherchez la foi. C'est cela les caractères d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il ne se décourage pas. Pourtant, il a des épreuves. Et puis, il faut joindre l'amour. L'amour, c'est le caractère même de Dieu. Dieu est amour. Vous l'avez appris quand vous étiez peut-être très jeune. Dieu est amour. C'est le caractère de Dieu. C'est un amour qui est connu en Jésus-Christ et qui est manifesté par ceux qui participent à sa nature divine. Quand je suis participant de la nature divine, j'aime. Je ne peux pas aimer, ma nature n'est pas aimable, je n'aime pas moi. Mais l'amour de Dieu étant versé dans mon cœur par le Saint-Esprit me permet d'aimer. Et à cet amour, j'ai à joindre la patience qui me permet de traverser, de supporter toutes les épreuves et les difficultés en vue du but glorieux à atteindre. Voyez-vous, il y a un but pour nous. Nous ne serons pas toujours sur la terre. Alors les épreuves que nous avons nous forment pour une autre vie. Nous sommes à l'école en vue de l'administration du royaume de Dieu qui aura lieu quand le Christ régnera. Et ceux qui auront souffert maintenant sur la terre, ils régneront aussi avec lui. Si vous avez pu manifester de la fidélité dans les petites choses d'aujourd'hui, il vous établira sur beaucoup dans son royaume. Au fond, notre vie n'est qu'une école en vue de l'éternité que nous aurons à passer avec lui et où nous aurons une activité qui ne sera pas la même pour tous. C'est dans la mesure où nous aurons été fidèles au Seigneur dans les petites choses qu'il pourra nous confier un poste dans l'administration de son royaume. Ma vie ne finit pas au cimetière. Et alors, ensuite, vous avez la douceur d'esprit. La douceur d'esprit, c'est cette incorruptibilité dont parle Pierre. L'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre 3, verset 4. Et la douceur dans l'Écriture, ici, eh bien, ce sont les caractères, c'est les caractères d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits.
Que votre douceur, dit Paul aux Philippiens, soit connue de tous les hommes. Or, aujourd'hui, vous n'entendez parler que des droits de l'homme. Les droits de l'homme. Hein? Eh bien, alors on veut défendre ces droits d'abord. Les vrais croyants authentiques qui ont une piété, qui sont en relation avec Dieu, ils ne défendent pas leurs droits d'abord. C'est Dieu qui les défend. Leur défenseur, c'est Dieu. Et ils se confient en Dieu pour leurs droits. Quant à eux, ils sont manifestés par cette douceur, du caractère d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Une douceur d'esprit. C'est pas la douceur mielleuse, hein. Une douceur de l'âme, c'est la douceur d'esprit. Et alors il y a deux choses qui sont ajoutées. Combat, le bon combat. Qu'est-ce que c'est le bon combat? C'est le combat de la foi. Donc Paul parle à la fin de sa deuxième épître, j'ai combattu le bon combat. Quand vous voyez des hommes qui arrivent à la fin de leur vie et qui disent, si seulement je pouvais recommencer, c'est raté l'image. Ils ne peuvent pas recommencer, c'est fini. Eh bien, il faut pouvoir arriver à la fin de sa vie en disant, j'ai combattu le bon combat. Dieu soit loué, je ne me suis pas trompé. Il m'a gardé jusqu'à ce jour. J'ai achevé la course. Hein, il avait dit, pourvu que j'achève ma course. Mais il peut dire à la fin, j'ai achevé. Mais il avait été conscient qu'il aurait pu être retranché avant d'atteindre le bout de sa course. Mais Dieu l'avait gardé dans la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai maintenant achevé la course. Voilà les caractères d'un homme de Dieu. Et c'est un combat. Et il dit, saisis la vie éternelle, la deuxième chose. Qu'est-ce que c'est que saisir la vie éternelle? Vous dites, mais je l'ai la vie éternelle. Oui, mais il faut la saisir, c'est-à-dire... Il faut que vous compreniez ce qui est vraiment la vie au milieu des séductions du monde. Il y a le monde qui est là avec toutes ses séductions, convoitise la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Alors dans un tel monde où nous sommes enveloppés par le péché, eh bien, qu'est-ce qui est vraiment la vie? Vivre, qu'est-ce que c'est vraiment vivre? C'était le thème d'un de nos camps. Qu'est-ce que c'est vivre pour vous? La vie réelle. Que Dieu vous montre que la vie réelle, c'est la vie éternelle. Saisis ce qui est réellement la vie éternelle. Cette vie en Jésus, dont on n'a pas de regret. Timothée, donc, était un homme de Dieu. Alors, après ce que nous avons vu sur Moïse, sur Samuel, sur David, sur Élie, sur Élisée, sur Shemaïa et sur Hanan dans l'histoire des Récabites qui est rapportée dans Jérémie 35, eh bien, nous avons maintenant Timothée dont les actes nous révèlent la conversion. Il était tout jeune, chapitre 16 des actes, versets 1 à 3. Et nous voyons qu'il habitait à Lystre, que son père était un païen grec, mais que sa mère était une juive pieuse. Chapitre 14 des Actes, aussi versets 5 à 23, vous verrez comment il a rencontré Paul et comment il s'est converti par le message de l'apôtre Paul. C'est pour ça que Paul peut l'appeler son enfant dans la foi. Et comment un jour il est devenu le compagnon de Paul. Si jeune, il était avec Paul, il était à l'école de Paul. Et Paul lui a transmis tout ce qu'il savait du Seigneur, de la parole, pour que lui aussi, malgré sa jeunesse, puisse apporter cela à d'autres. Et vous verrez que ce Timothée, encore jeune, n'avait pas, parce qu'il était un homme de Dieu, une santé formidable. Il avait de fréquentes indispositions. Et même Paul, qu'est-ce qu'il lui recommandait? Que les adventistes vous défendent? D'user d'un peu de vin pour son estomac.
à cause de ses fréquentes indispositions. Alors, allez chez les adventistes pour votre estomac. Mais vous voyez, dès que vous vous mettez sous une loi quelconque, vous ne pouvez plus vivre vraiment la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle vous libère. Tandis que les hommes, avec leur doctrine, ils vous rendent esclaves. Alors, soyez heureux d'être de ceux qui connaissent la parole qui nous libère. Et si vous lisiez les actes et les épîtres, vous verrez la place que Paul a donnée à ce jeune homme qui était son compagnon d'œuvre. Il y a plus de 25 versets, 25 passages qui nous parlent de ce que Timothée était pour l'apôtre Paul, des qualités qu'il voyait en lui. Et même s'il était jeune, il lui disait que personne ne méprise ta jeunesse. Ne dis pas que t'es trop jeune. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et mon père me disait toujours, tu sais, oui, tu es jeune, mais la jeunesse, c'est un défaut qui se corrige tous les jours. C'est drôle, hein? C'est une vérité de papa. Du Dieu de papa. Alors ne nous laissons pas arrêter. Tous les jours, ce défaut qu'on a quand on est jeune se corrige parce qu'on vieillit. Mais il n'y a pas de vieillesse spirituelle. Parce que c'est la vie de Jésus. Et Jésus a été enfant, Jésus a été adolescent, Jésus a été homme fait, mais il ne nous a pas donné l'image d'un vieillard. C'est fantastique. Alors je le souligne, il n'y a pas de vieillesse spirituelle. Et je sais que mon frère est d'accord avec moi. Et ma sœur aussi. Parce que nous sommes heureux d'avoir au milieu de nous des personnes qui sont aussi âgées, même plus âgées que moi, et qui peuvent témoigner que Dieu ne les a pas laissés, ne les a pas abandonnés. Il y a eu des épreuves, il y a eu des décisions à prendre, mais le Seigneur a été là. Et nous louons le Seigneur et nous lui donnons toute gloire, tout honneur, et nous nous réjouissons de pouvoir célébrer ce culte en mémoire de lui. Alors, mes amis, vous allez lire et relire les épîtres à Timothée et faire comme, je ne vais pas me présenter comme un exemple, mais moi, quand j'étais très jeune, je les lisais, non pas épîtres de Paul à Timothée, mais épîtres de Paul à Gaston. Bon. Alors, faites la même chose. Hein. Vous allez commencer, même si vous avez un nom de femme, vous pouvez aussi vous les appliquer. Vous allez les lire comme étant des lettres qui vous sont adressées personnellement. Alors, vous allez en recevoir des messages, et des encouragements, et des exhortations, et des petites corrections, parce qu'il nous en faut aussi. Alors, vous y trouverez là des choses importantes, très importantes, et vous verrez que ça revient sans cesse. Il est dit, dès le premier chapitre, de ne pas nous détourner de ces choses, parce qu'on peut s'en détourner. Et ces choses, c'est avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur qui n'est pas partagé, qui a pris une décision pour lui, une bonne conscience, c'est-à-dire une conscience qui est illuminée par le Saint-Esprit, on n'a pas mauvaise conscience, alors c'est la santé spirituelle, et puis une foi sincère, c'est une foi qui produit des œuvres. Une foi vivante qui produit des mœurs. Alors, ne te détourne pas de ces choses. Chapitre 1er, verset 6. Et puis, ensuite, chapitre 2. Avant toute chose, qu'est-ce que tu dois faire? Prie. Les caractères d'un homme de Dieu, un homme de Dieu, c'est un homme qui prie. Un homme de prière. Il a plusieurs prières. Mais il ne dit pas, moi j'ai fait des nuits de prière, vous voyez. C'est pas ça, c'est pas souvent qu'on a prié tant d'heures. Il y a quelqu'un qui est venu me demander l'autre jour, est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Combien d'heures passez-vous dans la prière dans la journée? J'ai dit, mon cher ami, je ne te répondrai pas. Parce que ça c'est mon secret. Et puis je te dirai que je ne calcule pas le nombre d'heures, c'est pas ça. L'apôtre m'a dit, priez sans cesse, n'est-ce pas? Nous sommes dans un état de prière, dans un esprit de prière. On n'en finit pas, on fait le calcul des nombres d'heures qu'on a passées en prière, et puis on pense, mais il y a toute une organisation, n'est-ce pas, pour vous faire prier à telle heure, etc. Vous signez des listes de prières, les listes de prières, ayez-les dans votre cœur. Et le Saint-Esprit qui est votre mémoire vous rappelle les noms. Parce que si vous vous engagez à prier pour ceci, pour cela et pour cela, comme on vous le demande bien souvent, vous signez des papiers et puis vous ne tenez pas vos promesses. Parce que vous ne pouvez pas matériellement, c'est pas possible. Et alors on vous donne après une mauvaise conscience. On vous a remis sous un joug. Alors que quand l'Esprit est là en nous, tout à coup, c'est peut-être dans notre voiture, alors que nous conduisons à un feu rouge, le Seigneur nous met à cœur de prier pour quelqu'un. Hein? Et puis nous prions très fort. Puis on apprend quelques jours après, on reçoit une lettre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais dans une grande détresse et j'ai été soutenu, secouru. Je ne prétends pas que c'était ma prière, mais c'est arrivé si souvent que nous voyons que le Seigneur nous rappelle les personnes pour lesquelles nous devons prier à un certain moment avec tout à fait une intelligence et une force particulière. Alors, prière, avant toute chose, la prière, mais une vie ouverte à Dieu. Pas le calcul des heures de prière. Et puis surtout, on ne le dit pas. Ensuite, chapitre 3, verset 14. Je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Ensuite, expose ces choses. Déclare ces choses. Sois un modèle en parole, en conduite, en foi, en amour, en pureté. Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. Persévère dans ces choses, chapitre 4, verset 16. Et puis, concernant les veuves, chapitre 5, verset 7, déclare et ordonne ces choses, ce qu'on doit faire avec les veuves. Chapitre 6, verset 2, enseigne ces choses, recommande-les, puis le verset 11 que nous avons lu, fuis ces choses. Et si vous allez dans la deuxième épître, rappelle ces choses. Et enfin, demeure dans ces choses. Demeure dans ces choses. Voilà ce que vous trouverez dans cette épître. Et sur les caractères d'un homme de Dieu. Alors, au terme de cette retraite, est-ce que nous avons compris que les Écritures sont la règle permanente et normative d'après laquelle toute parole dite de la bouche doit être jugée. Jugez toutes les paroles que j'ai pu vous dire. Selon l'Écriture, replacez-vous devant l'Écriture, dites-vous, est-ce que c'était un faux docteur? Est-ce qu'il a voulu nous influencer contre ceci, contre ça? Ou bien est-ce que c'était la vérité? En un mot, je le souligne, les Écritures sont inspirées de Dieu, elles enseignent, elles jugent les cœurs, elles nous corrigent, elles nous disciplinent selon la justice pour nous rendre accomplis. C'est-à-dire instruit dans la volonté de Dieu, que notre intelligence soit formée d'après cette volonté et que nous soyons parfaitement accomplis pour toute bonne œuvre. Et alors la puissance pour accomplir la volonté de Dieu, nous l'avons dit hier soir, c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous est la puissance qui nous permet d'accomplir la volonté. Et de traverser toutes les souffrances, souffre par la puissance de Dieu. Et ce qui garantit l'homme de Dieu de l'erreur, ce qui lui donne la sagesse pour le salut, eh bien, ce sont les Écritures. Et voyez-vous, c'est la fin. Nous sommes sauvés en espérant. Et il y a un salut qui a été accompli pour nous et qui est derrière nous. La croix est derrière nous. C'est un fait qui ne peut pas être défait. Un jour, Christ a été
mis à mort, il est crucifié pour nous. Il vous a acquis votre salut. C'est en vous confiant dans l'œuvre de Christ, qui est un fait passé, que vous avez la certitude de votre salut. Mais ce salut, vous ne l'avez encore qu'en espérant. Vous saisissez par la foi cette œuvre, votre foi croit que c'est vrai, que Dieu a dit de son Fils, pourquoi il est mort, mais maintenant, vous travaillez à votre salut. Cette foi qui est en vous, vous conduit d'une certaine manière, en vue du but qui est devant nous, où nous recevrons à la fin de la course le prix de notre foi qui sera le salut total aussi de nos corps. Nous sommes sauvés en espérance. Le salut, l'œuvre a été accomplie, mais nous vivons de foi, sauvés par la foi, pour vivre de foi, d'une foi qui se renouvelle tous les jours, d'une foi dynamique, et à la fin, nous aurons le prix de notre foi qui est le salut de nos âmes. C'est pas moi qui l'invente, c'est Pierre qui dit ça. Vous aurez pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Alors, c'est pas j'ai été sauvé il y a X années. J'ai été sauvé par la mort de Jésus à la croix. Je l'ai compris à un certain moment, c'est vrai, mais maintenant je le comprends tous les jours. Et je vis tous les jours de ce salut en espérant jusqu'à ce que finalement mon corps aussi soit transformé en l'image du corps du Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. Et ça, ce sera le prix de notre foi. Il y a un prix pour la foi. Alors que votre foi soit en activité et vous serez dans ce monde des hommes et des femmes de Dieu jusqu'à ce qu'ils viennent. Amen. Dieu notre Père, une fois encore nous nous inclinons devant toi. Nous te remettons ces exposés que nous avons donnés dans notre immense faiblesse, mais ce qui est notre confiance maintenant, c'est qu'il reste ta parole. Et que même si nous avons entendu beaucoup de choses et que nous nous disons, mais je ne me souviendrai pas de tout, je n'ai pas de mémoire, nous te bénissons parce que tu nous dis que le Saint-Esprit sera notre mémoire. Et que jour après jour, au moment voulu, l'Esprit que tu nous as donné nous rappellera les choses essentielles qui nous seront utiles pour notre vie pratique, dans nos familles, dans nos foyers. Que ta parole ait pu toucher les cœurs. C'est toi qui les connais. C'est toi qui sais ce que nous pensons. Et peut-être que tu avais à corriger une de nos pensées. Pas que tu nous aimes, qui que nous soyons ici. Tu nous aimes d'un amour infini. Et tu es plus ambitieux pour nous que nous ne le sommes nous-mêmes. Et tu voudrais beaucoup pour nous. Alors nous voulons te dire, Seigneur, nous allons te laisser faire en nous toute ta volonté pour la gloire du Père au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.